Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi soir, oui, je ne sais plus, nous en sommes mardi soir, soir info de 22h30 à minuit sans aucune interruption avec autour de la table ce soir Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, bonsoir. Salut. Cher Gabriel, à vos côtés Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement, bonsoir Philippe,
bonsoir Julie.
Bonsoir à Régis Le Sommier, journaliste, rédacteur en chef pour Omerta, de l'autre côté de la table, maître Laure Alice Bouvier et parmi nous, avocate, bonsoir à vous, ravi de retrouver Yoann Uzaï du service bonsoir, politique Julien. De CNews. Bonsoir Yoann et bonsoir Amaury Bucco pour les questions de police-justice précisément ce soir. Il y en aura quelques-unes avec vous, cher Amaury. Avant de s'intéresser d'ailleurs à la convocation au commissariat pour Mathilde Panot, pour une plainte pour apologie du terrorisme, on va en discuter dans un instant. D'abord, retour sur ce chiffre hautement symbolique et dramatique, puisqu'ils vivent l'enfer depuis maintenant 200 jours. 129 otages sont toujours détenus à Gaza par le Hamas, parmi eux, 3 Français, vous le savez, on va voir leurs visages, qui sont encore aux mains du groupe terroriste, Ohad Yahalomi, Ofer Calderon, Orion Hernandez Radou, de nationalité, lui, franco-mexicaine, qui est aussi toujours détenu à Gaza. Donc sa mère, la mère d'Orion, Pascal Radou, interviewé par CNews ce matin, a affirmé croire du fond de son cœur à la libération de son fils. Écoutez-la.
On se sent entouré, on sent une grande solidarité de la part de la France et bien sûr que c'est aidant. Après, il y a des périodes où ça fait moins de bruit, ou ben, surtout en ce moment, on parle beaucoup moins des otages, puisqu'on parle plus de la situation de l'Iran et Israël. Donc, on entend moins parler de la situation à Gaza et des otages. On sait qu'il y a des otages qui ont été prisonniers, voire même des années. Donc, ça aussi, ça peut donner un espoir en se disant, bon, il y a des otages qui ont été prisonniers durant toutes ces années et ils s'en sont sortis. Après, les conditions ne sont pas les mêmes. Là, on est vraiment en guerre. Donc, voilà, c'est là où l'inquiétude peut être, on va dire, importante quand on essaye d'imaginer où ils peuvent être, s'ils sont alimentés, comment ils dorment, s'ils sont bien traités, etc.
Une grande sobriété, une grande dignité dans les propos de cette dame, Gabrielle Cluzel, et pourtant c'est impossible d'imaginer le supplice que cette mère, que toutes ces mères, que toutes ces familles endurent depuis plus de 6 mois maintenant, alors qu'on revoit les visages de ces 3 franco-israéliens, eux aussi retenus par les terroristes du Hamas.
Oui, évidemment, c'est une torture pour une mère d'imaginer son fils pris en otage, d'imaginer, elle l'a dit, du reste souffrir physiquement, souffrir psychologiquement, parce qu'on sait très bien que une détention de cette durée, c'est loin d'être neutre. Et puis, évidemment, ce sentiment que les gens s'habituent, parce qu'elle ne s'habitue pas, elle est la mère. Mais évidemment, une actualité chassant une autre, eh bien, on parle moins de ses otages et donc de son fils. Donc, évidemment, c'est proprement et presque physiquement insupportable, je l'imagine, se lever tous les matins et en se posant les mêmes questions. C'est vrai que son témoignage est très digne.
Ce qui est terrible aussi, c'est Laure Alice Bouvier, dans certaines familles, on entendra Hadas Calderon dans un instant, vous avez dans certaines familles des individus, des enfants, souvent des femmes qui ont été libérées, mais d'autres membres d'une fratrie, d'une même famille, eux restent otages. On se dit, mais quel sadisme de la part du Hamas de libérer au compte-goutte comme ça au sein de même famille. C'est encore une fois invivable. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à apporter, si ce n'est un peu de compassion et de compréhension tant que ce soit possible et envisageable.
Je pense que vous avez dit le mot très juste, Julien, sadisme. Je n'ai pas de mots assez forts pour parler de la cruauté de ces actes. Et évidemment, toute mon empathie va vers ces victimes, va vers leurs familles, va aussi vers les personnes détenues. Ces otages, ce sont des pères, des mères de famille, même il y a même un bébé de 1 an. Enfin, on a des personnes handicapées, on a des personnes âgées. C'est vraiment, vraiment terrible. Et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Gabriel très justement sur le fait qu'on a l'impression qu'on s'habitue. Quand on a des journalistes qui sont en otage dans des pays étrangers, on a souvent des placardés un peu partout, Libération, etc. Et là, on a l'impression que on a beaucoup moins ça. Et comme vous l'avez très justement dit, une actualité en chasse une autre. Il ne faut pas les oublier, ces otages. Il ne faut pas les oublier et il faudrait un cessez-le-feu et il faudrait qu'on puisse faire un échange entre les prisonniers et les otages. Et quand j'entends le Hamas dire « Ah non, mais on ne sait pas exactement où ils sont, peut-être qu'ils sont sous les décombres, on ne sait pas vraiment », c'est épouvantable.
La vérité, c'est que les dignitaires du Hamas eux-mêmes ne savent probablement pas où sont cachés certains des otages dont on n'a pas les preuves de vie, d'ailleurs. Et c'est ça qui est terrible, parce que personne n'est capable de dire aujourd'hui s'ils sont vivants, si une partie l'est ou pas. Tout le monde va réagir. Je voudrais juste qu'on entende Hadas Calderon, parce qu'elle aussi, et vous étiez en plateau avec elle, Johan, il y a quelques minutes, dans le meilleur de l'info avec Olivier Benkemoun, pardonnez-moi, Hadas Calderon, cette franco-israélienne du kibbutz de Nir Oz, à la frontière de Gaza, qui elle a vu 5 membres de sa famille victimes des terroristes du Hamas le 7 octobre. Écoutez, son témoignage, c'était il y a quelques minutes en direct.
I don't get much information.
Je n'ai pas beaucoup d'informations.
We don't know much.
On ne sait pas grand-chose.
We hardly know anything.
On ne sait pratiquement rien.
The terrorism is like it's happened to us.
Et vous savez, nous avons été victimes de ce terrorisme.
Family, it's happened to me.
Ce terrorisme a frappé ma famille, a frappé mes proches, a frappé ma communauté, a frappé notre pays entier. Il ne faut pas oublier ce jour. Le 7 octobre a réellement été un massacre, un pogrom, une Shoah, un holocauste.
And it's I think the whole world have to
Et pour moi, le monde entier devrait relayer notre message et le porter haut et fort. C'est une lutte contre le terrorisme. Ils sont détenus dans des conditions très difficiles. Mes enfants m'ont raconté. Même les personnes fortes peuvent trouver des difficultés à survivre. Et on peut retrouver des corps à la place de retrouver nos amis, nos proches. Ce sont des cadavres qui peuvent revenir à la maison. Nous sommes terrifiés, réellement terrifiés.
Voilà, pour cette manière poignante, vous étiez en plateau avec Hadas Calderon et vraiment l'émotion, elle était,
oui, c'est
très présente sur ce plateau.
Un témoignage très poignant parce qu'effectivement, elle vit maintenant à nouveau avec ses enfants, mais qui ont été retenus en otage pendant 52 jours.
Et leur père est toujours retenu.
Absolument, donc elle dit, les enfants sont avec moi, mais leur tête est encore là-bas parce qu'évidemment, ils sont traumatisés et ils le seront sans doute à vie et ils ont des séquelles aujourd'hui qui montrent bien que ces enfants ne peuvent plus vivre normalement. Et leur père leur manque beaucoup, évidemment. Leur père est toujours retenu en otage là-bas. Et elle ne sait pas d'ailleurs si leur père est vivant, parce qu'il faut dire que parmi les 130 otages qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza, au moins la moitié sont morts, hélas. Et encore, c'est un chiffre qui est un peu optimiste, manifestement.
34 seraient morts selon les responsables israéliens, exactement.
Oui, c'est manifestement beaucoup plus cela, si on en croit d'ailleurs des responsables qui parlent.
Comment faire confiance aussi à la communication du Hamas ?
Et si les dernières négociations et la dernière trêve a échoué, c'est notamment parce que le Hamas n'a pas été capable de donner 40 noms d'otages, 40 identités de ces otages, qui montrent bien quand même qu'ils sont dans une situation plus que complexe. Et je crois que ça n'est pas une actualité qui chasse l'autre, en réalité. Si une partie du monde a oublié ces otages, ça n'est pas l'actualité qui fait cela. Je crois que le monde et une partie des dirigeants ont oublié ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça n'existe plus. Ça a été balayé d'un revers de la main parce que le Hamas a peut-être su communiquer, parce qu'une partie des leaders politiques ont considéré qu'Israël était en train de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Et tout
parce
cela...
Parce qu'il faut le dire, l'offensive de Benjamin Netanyahou a donné des images déplorables également de la riposte.
Naturellement, mais il ne faut pas oublier qui a déclenché cette guerre.
Évidemment.
C'est le Hamas qui l'a déclenché. Israël n'a rien demandé.
Évidemment.
Et une partie des leaders politiques dans le monde entier, mais particulièrement en France, ont contribué à ce que cette haine des Juifs fasse oublier le 7 octobre dernier.
Et puis hier, à la même heure, on montrait ces images à l'Université de Columbia avec ces étudiants pro-palestiniens. Absolument. Qui créent des chaînes humaines pour empêcher les étudiants ou professeurs juifs d'entrer dans l'enceinte même de ce campus. Régis Le Sommier, avant d'entendre Philippe, sur l'aspect vraiment stratégique et plus factuelle de ce conflit, ça fait 200 jours. Mmh. On ne voit aucune issue, ni militaire, ni diplomatique, ni politique.
Vous vous souvenez, le lendemain, je crois, du 7 octobre, Benjamin Netanyahou était apparu à la télévision israélienne et avait déclaré qu'il voulait éradiquer le Hamas. C'était aussi évidemment le sentiment de beaucoup d'Israéliens à l'époque. Ce qu'il faut constater, vous dites 200 jours, en effet, il y a cette situation terrible, vous venez de le rappeler, des otages, mais aucun des chefs militaires importants, organisationnels, pilote justement de ces attentats, de cette incursion des militants du Hamas, notamment dans les kibboutz et au sud d'Israël, n'a été éliminé jusqu'à présent. On a beaucoup parlé de Yahya Sinwar, notamment avec la ville de Khan Younes. La ville de Khan Younes a été quasiment rasée par l'opération dans la bande de Gaza. Yahya Sinwar est toujours introuvable. Mohamed Def, qui est aussi le chef opérationnel des brigades Al-Qassem, donc la branche militaire du Hamas, lui non plus n'a pas été retrouvé. Aucun non plus des membres du Hamas en exil, que ce soit Ismaël Haniyeh ou Khaled Meshal, n'ont été inquiétés.
Le général pourtant, Zaidi, non ?
On est dans du militaire iranien. On n'est pas dans
du Hamas. Ouais.
Et pour le moment, le Hamas est dans la sphère de l'Iran, mais la responsabilité de l'Iran dans ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas encore prouvée, même si c'est un bailleur de fonds,
Même si le Hamas est considéré comme un proxy de l'Iran également.
Tout à fait. Mais si vous voulez, pour le moment, Israël s'est attaqué beaucoup des passes d'Aran iraniens. Il y en a une vingtaine qui ont été éliminées. Mais pour ce qui est des chefs opérationnels du 7 octobre, puisque c'est précisément ce dont on parle là,
on peut presque parler d'échec, pour Tsahal et pour Benjamin Netanyahou, parce que l'objectif c'est d'éradiquer le Hamas et de libérer tous les otages, et aucune de ces deux.
Et vous avez la donne humanitaire qui est comptable, c'est-à-dire qu'on est. Alors le Hamas communique des chiffres de 50 000 morts palestiniens, dont une proportion assez importante d'enfants, mais il y a un désastre humanitaire en cours. Et pas de résultats tangibles sur ceux qui ont véritablement fait cette opération du 7 octobre.
Et Philippe Guibert, c'est vrai que malgré les efforts aussi des médiateurs, que peuvent être le tour à tour le Qatar ou l'Égypte, les négociations entre les deux camps sont au point mort. Vraiment,
il faut souligner
l'impression que rien n'avance dans ce conflit qui est larvé.
Pour prolonger ce que disait Johan tout à l'heure, c'est le Hamas qui a cassé la possibilité d'un accord sur les otages, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours. Donc, et pour les raisons que vous indiquez, qui est qu'ils n'ont pas donné de garantie sur la vie des otages. Et donc ça, c'est la première remarque. C'est que là, la responsabilité sur les otages est vraiment complètement du côté du Hamas. Le deuxième point, c'est quand même que l'offensive israélienne sur Gaza n'est plus dans sa phase la plus intense. On n'en est pas à un cessez-le-feu. Mais les bombardements les plus violents et les plus destructeurs.
Il faut dire que la séquence avec l'Iran a peut-être aussi freiné cette offensive de Rafah qui était prévue.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Et aussi quelques pressions américaines.
Bien sûr.
Donc largement les pressions américaines.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Et donc, l'offensive sur Gaza n'a plus la même dimension sur lequel on pouvait avoir des questions, des doutes et voire des critiques qu'il y a quelques semaines. Et donc les conditions devraient être réunies pour qu'un accord soit trouvé. Et j'insiste, là c'est vraiment le Hamas qui est directement en cause, s'il n'est pas sur le reste, mais il est complètement en cause et c'est lui qui bloque sur cette libération des otages, plus que le côté israélien.
Je trouve qu'elles sont très fortes, pardon.
Et la détresse des familles est d'autant plus, on l'imagine, épouvantable, enfin c'est invivable ce qu'ils ressentent, puisqu'ils n'ont même pas de certitude, non seulement ils n'ont pas de certitude sur la libération, mais ils n'ont pas de certitude sur la vie même des otages qui sont encore aux mains du Hamas.
Ces images qu'on voit défiler sous nos yeux, elles datent d'hier, vous le voyez à gauche de l'écran, et on sent tellement la dramaturgie de l'événement, la peine, l'émotion sur tous les visages que l'on voit. Il y a cette impression qu'en fait qu'on est toujours, chaque jour qui se succède est un nouveau 7 octobre au soir, finalement. On a l'impression qu'on est encore dans cette sidération 6 mois après, 200 jours après, la société israélienne qui vit cette séquence de manière tellement traumatique que chaque jour qui passe est un 7 octobre au soir ou un 8 octobre au matin. C'est l'impression que ça donne.
La vie est sacrée en Israël et dans le judaïsme. Et donc, c'est la première fois.
La vie est sacrée tout court, j'ai envie de dire.
Bien sûr, mais ça a une valeur particulière. Et jamais Israël n'avait renoncé à libérer des otages. Hein.
Je note juste, et Johan, je vous laisse réagir, que c'est une information qu'on a apprise ces dernières heures et qui fait sens aussi. Le chef du renseignement militaire israélien a démissionné, assumant sa responsabilité dans les attaques du 7 octobre. C'est vrai que cette question toute simple, on se la pose encore, là encore, 6 mois après, comment les services israéliens ont pu être submergés de cette façon avec ce terrible pogrom du 7 octobre. Un dernier mot.
Mais c'est vrai que la société israélienne est traumatisée et elle le sera sans doute durablement parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui était complètement inattendu. Le peuple juif, qui est quand même persécuté dans beaucoup d'endroits dans le monde, se disait au moins on a un refuge, la terre d'Israël, où là nous sommes en sécurité. Et bien, ils découvrent que même là, ils ne le sont plus. Donc évidemment, c'est un traumatisme. Ajoutez à cela le fait qu'il y a encore des otages, leurs maris, leurs enfants qui sont détenus toujours dans la bande de Gaza et leurs enfants précisément qui se battent dans l'armée. Donc il est évident que la société israélienne est pleinement mobilisée et pleinement tournée vers cette guerre qui pour elle est évidemment extrêmement loin d'être terminée. Donc le 7 octobre aura des conséquences qui seront durables et qui marqueront pendant des années, si ce n'est des décennies, cette société israélienne.
Je ne sais pas si, comme l'appelait de ses voeux Hadas Calderon, le monde va continuer régulièrement, quotidiennement, à appeler à la libération de ses otages, à avoir des pensées pour eux. Mais sur CNews, nous ne les oublierons pas et nous montrerons, tant qu'il faudra, le visage de ces 3 Français, Orion, Ofer et Ohad, donc toujours aux mains des terroristes du Hamas depuis le 7 octobre, à savoir 200 jours. Désormais, nous pensons à eux et à tous les otages aux mains des terroristes. Les ennuis judiciaires se poursuivent. Pour la France insoumise, 4 jours après Rima Hassan, candidate, vous le savez, en 7e position sur la liste de Manon Aubry aux européennes pour la France insoumise. C'est au tour donc de Mathilde Panot d'être convoquée par la police dans le cadre d'une enquête ouverte pour apologie du terrorisme. C'est une première pour une chaire de groupe parlementaire sous la 5e République. J'ai reçu ce jour, disait-elle ce matin sur Twitter, une convocation pour être entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Nous ne nous tairons pas. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien. J'appelle tout un chacun à prendre conscience de la mesure des atteintes alarmantes contre la liberté d'opinion et contre la démocratie. Un peu plus d'informations avec notre journaliste politique Thomas Bonnet.
Selon le communiqué publié ce mardi par Mathilde Panot, cette convocation de l'élu insoumise dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme se fonde sur une publication officielle du groupe parlementaire de la France insoumise en date du 7 octobre dernier. C'est à cette date que la France insoumise avait publié ce communiqué, quelques heures seulement après l'attaque terroriste du Hamas. Un communiqué qui s'ouvrait avec cette phrase « L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas, à aucun moment il n'était fait mention du mot terrorisme ». Mathilde Panot évidemment s'offusque de cette convocation qui intervient quelques jours seulement après une autre convocation adressée cette fois-ci à Rima Hassan, la numéro 7 sur la liste de la France insoumise pour les élections européennes. Selon les informations du Monde, Rima Hassan est convoquée pour des propos tenus entre le 5 novembre et le 1er décembre dernier, vraisemblablement des propos qu'elle aurait pu tenir sur le réseau social X. Elle avait notamment tweeté le slogan « From the river to the sea », de la rivière à la mer, qui peut être considéré comme une négation de l'État d'Israël. Un peu plus tôt, c'est Daniel Obono, autre député de la France insoumise, qui était visé par une plainte directement adressée par Gérald Darmanin, qui a saisi la justice après que Daniel Obono a prononcé sur l'antenne de Sud Radio les mots de résistance, mouvement de résistance, c'est ainsi qu'elle avait qualifié l'organisation terroriste du Hamas.
Je vous rappelle ce qui pourrait être mis en cause autour de cette plainte, ce qui pourrait justifier plutôt cette plainte, c'est notamment le communiqué qui avait été publié par la France Insoumise dès le 7 octobre dernier. Les députés LFI, qui vous allez le revoir, avaient évoqué une offensive armée des forces palestiniennes pour faire face à l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens, avant de vivement nuancer dans un second temps cette expression, un petit commentaire. Maître Bouvier, d'un point de vue légal, est-ce que cette convocation, 6 mois après, vous surprend ?
Moi, elle ne me surprend pas.
C'est quand même un timing.
Alors oui, c'est un timing, mais il ne faut pas non plus oublier que Mme Obono avait été aussi convoquée en octobre 2023 pour les propos qu'elle avait tenus. Et que d'un point de vue purement juridique, moi, ici, le LFI déclare dans leurs différentes communications qu'ils sont en recherche de paix. Moi, je ne vois pas de recherche de paix. Au contraire, je vois plutôt des propos et des actions qui tentent à engendrer un accroissement de l'antisémitisme, voire à fermer la guerre civile. En ce qui concerne cette audition, alors ça peut être une audition libre. On ne sait pas si elle est placée en garde à vue ou pas, mais en tout cas, bon, elle va être entendue. C'est la procédure, on va dire, classique. En tant que juriste, ça ne me surprend pas, étant donné le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, avec l'accroissement des attaques antisémites. On rappellera aussi que l'agresseur de Marco qui sortait d'une synagogue...
Oui, mais encore une fois, voilà. Ça fait 6 mois qu'il y a une hausse exponentielle des agressions antisémites.
Il jette de l'huile sur le feu, il faut bien dire ce qui est. Donc nécessairement, je pense qu'il s'agit de les entendre et ça ne veut pas... Eux, ils parlent de pression, moi je parle de victimisation dans ce cas-là.
En tout cas, ce sont des plaintes qui servent une stratégie victimaire, si tant est qu'elle sera celle de LFI.
D'un point de vue juridique, ce sera au parquet ensuite de décider des suites à donner. Mais moi, ça ne me semble pas du tout anormal, au vu du contexte, du risque de trouble à l'ordre public, qu'on les entende.
D'un point de vue purement factuel, vous avez un petit peu fouillé aujourd'hui ce qu'il pouvait y avoir autour de cette plainte à Amaury Bucaud. D'où est-ce qu'elle provient, d'ailleurs, cette série de plaintes, hein, puisqu'il y a Rima Hassan, Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon a plus ou moins dit hier, lors de sa conférence à Sciences Po, que plusieurs visages de LFI pourraient être visés par des plaintes. Est-ce qu'on sait d'où viennent précisément?
Alors, on n'a pas de certitude, puisqu'en fait, c'est seulement déclaratif. C'est ce que ces personnes ont dit, qu'il y avait des plaintes qui les visaient, mais elles ne disent pas qui les a déposées. Peut-être qu'elles ne le savent pas, d'ailleurs. Et c'est très probablement l'OGIE, l'Organisation juive européenne, qui a déposé plainte à plusieurs...
L'OGIE l'a dit, explicitement?
L'OGIE a expliqué qu'elle avait porté plainte contre ces personnalités, mais l'OGIE n'est pas au courant des suites judiciaires. Si vous voulez, l'OGIE a déposé une plainte contre de nombreuses personnalités d'extrême gauche, Mathilde Panot, effectivement, Rima Hassan, Guillaume Meurice, mais l'OGIE aujourd'hui n'est pas au courant des suites judiciaires des plaintes qu'elle a. Et peut-être que d'autres associations, en parallèle, ont déposé plainte, mais très probablement c'est l'OGIE. L'OGIE, qui est une organisation, donc l'Organisation juive européenne, qui donc lutte contre l'antisémitisme ou tout ce qui est pour relativiser, si vous voulez, les crimes du Hamas, qui est très active depuis le 7 octobre et qui ne veut pas communiquer sur le nombre de plaintes qu'ils ont effectuées, ni sur les phrases spécifiques qui étaient visées dans les plaintes, parce que, m'ont-ils dit au sein de l'association, ils ne veulent pas entraver l'enquête et ils ne voudraient pas, par exemple, que madame...
Imaginez que notamment ce qui vient d'être lu dans ce communiqué du 7 octobre plaide en défaveur de...
Leur justification, c'est qu'ils ne veulent pas trop rentrer dans le détail, parce qu'ils ne veulent pas que quand Mathilde Panot arrivera devant la police pour sa convocation, elle sache sur quoi on va l'interroger, qu'elle a un discours très rodé. Et juste pour finir, l'OGIE donc, a déposé une plainte, le parquet a examiné ces plaintes, certaines ont été immédiatement classées. Le délai, si vous voulez, c'est pas du tout surprenant. Ça prend du temps pour examiner vraiment les arguments de la plainte, pour que les enquêteurs fouillent. Et puis, c'est le parquet qui prend la décision ensuite de convoquer Mathilde Panot, ce qui ne veut absolument pas dire qu'elle va être convoquée plus tard. C'est vraiment pour approfondir, pour voir si ça doit donner lieu ou non à un procès.
On a juste exhumé également, si je puis me permettre le terme, cette conférence de presse mémorable du 10 octobre dernier, où notre confrère Frédéric Aziza, lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, demandait à Mathilde Panot si le Hamas était une organisation terroriste. Deux mots qu'elle a tout fait pour ne jamais associer. Souvenez-vous.
C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà, et c'est largement documenté. Vous pouvez... Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Si vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de.
Est-ce que ce sont des propos susceptibles de faire l'apologie du terrorisme, Philippe et Gabriel?
Moi, je suis extrêmement perplexe sur cette démarche
pour deux raisons. La première raison est de circonstances politiques.
Vous voulez dire qu'on est à 2 mois de l'élection européenne?
Et la seconde est de principe. Circonstances politiques, alors on ne voit pas clair, Amaury a essayé de nous éclairer, mais on n'y est pas tout à fait au clair sur le calendrier judiciaire.
Et pour Mme Obono, on ne sait pas ce qu'il en est en fait.
Je poursuis juste.
Allez-y.
En tout état de cause, quand bien même les plaintes auraient été déposées il y a longtemps, de convoquer, dans le cadre d'une enquête préliminaire sans doute, pour vérifier s'il y a ou pas lieu de mettre en examen pour apologie du terrorisme. En pleine campagne électorale, ça offre un cadeau formidable à la France insoumise, qui évidemment, et c'est de bonne guerre, et n'importe quel parti ou candidat fera la même chose, se victimise à fond. Donc premier point politique, c'est pour le moins maladroit. Et puis sur le fond, alors je pense que justement, parmi ces déclarations, il faudrait faire la différence entre Rima Hassan qui a déclaré que le 7 octobre était légitime, et là je pense qu'effectivement on n'est pas loin de l'apologie pour le terrorisme, mais fondamentalement, dans les prises de position, compris dans ce qu'on vient de voir de Mme Panot, c'est pas de l'apologie du terrorisme ce qu'elle a fait. C'est du déni de terrorisme. C'est-à-dire qu'on vient de l'entendre à l'instant.
Mais est-ce que dénier le terrorisme n'est pas d'une certaine façon d'en faire l'apologie?
Oui, mais alors justement, là on passe d'une discussion juridique à une discussion politique. Pardon, je termine juste.
C'est pas du déni.
On passe à une discussion politique où on exerce un jugement politique. Le jugement politique, on l'a tous fait, serait les filles. Le fait de ne pas vouloir admettre que c'était du terrorisme et du terrorisme puissance, si j'ose dire, 10... Tout le monde a condamné. Sur le plan politique et idéologique, il n'y a pas eu, il y a très peu de gens, je n'ai pas souvenir, y compris à gauche. N'oubliez pas que c'est ce qui a cassé la NUPES quand même. Personne n'est venu soutenir LFI dans les médias et dans la classe politique pour ce qu'ils ont dit après le 7 octobre où ils ont fait un énorme déni de terrorisme. Mais de là à dire qu'ils ont fait une apologie du terrorisme.
Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un cordon sanitaire autour de LFI non plus, hein, à gauche.
Moi, j'ai pas l'impression du tout qu'ils ont été protégés. Et donc, aller expliquer que quand Mme Panot dit ce sont des crimes de guerre, c'est de l'apologie du terrorisme. Accessoirement, elle est présidente d'un groupe parlementaire, c'est dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Et accessoirement, il y a une tête de liste pour les européennes qu'on n'entend pas et qui doit se sentir un peu seul au monde au milieu de ses propos.
Ça suppose une levée d'immunité parlementaire pour une présidente de groupe parlementaire dans le cadre de ses fonctions de parlementaire. Donc tout ça fait beaucoup et je trouve cette démarche problématique.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans le sens où la définition du ministère de la Justice de l'apologie du terrorisme est la suivante. L'apologie du terrorisme consiste à présenter ou commenter favorablement des actes terroristes. C'est précisément ce qui se passe, me semble-t-il, dans ce communiqué. Pourquoi ? Parce que dans le communiqué de la France Insoumise, publié le 7 octobre, le jour même de ce pogrom, le jour même où 1200 individus innocents ont été massacrés, le jour même où le monde entier était absolument bouleversé et anéanti par ce qui se passait en Israël, la France Insoumise trouvait le moyen de relativiser. Pourquoi je dis relativiser ? Parce que quand on analyse bien le communiqué, on se rend compte en fait que la France insoumise considère quelque part qu'Israël l'a bien cherché.
Ou en tout cas que le Hamas et Tsahal et le gouvernement israélien sont mis dos à dos.
Pardon, c'est beaucoup plus habile que ça.
Laissez-moi terminer. Ils disent que l'offensive des forces armées palestiniennes menées par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Donc ils trouvent une justification à ce pogrom.
Ils disent aussi, nous déplorons les morts israéliens et palestiniens, nos pensées vont à toutes les victimes.
Il trouve une justification.
C'est de l'équilibrisme pur.
Non, ça n'est pas de l'équilibrisme.
C'est de l'équilibrisme.
Non, ça n'est pas.
Alors,
pour rentrer dans l'apologie du terrorisme, cette déclaration, ça, bonne chance.
Il y avait pour qu'une paix juste et durable voie le jour, la résolution de l'ONU a commencé par la fin de la colonisation, doivent être activement mises en œuvre et tout ça publié le jour même du pogrom. On aurait pu attendre peut-être 24 heures pour ce genre de considération, sachant que Johan vient de le rappeler, 1200 personnes avaient été massacrées aussi. Je ne pose pas la question de savoir, Gabriel et Régis qui n'ont pas encore évoqué ce sujet, je ne pose pas la question de savoir si depuis le 7 octobre LFI s'est placé du mauvais côté de l'histoire, parce que je pense que la réponse est dans la question. Mais pour autant, et ça c'est une vraie question, pour autant, est-ce qu'il faut se féliciter, Gabriel, d'abord, d'une telle plainte et de cette judiciarisation finalement du débat public? Le délit d'opinion n'existe pas dans ce pays, que je sache.
Ce qui m'étonne, c'est le traitement qu'on en fait. Pardon. Parce que
s'il n'est pas avéré que c'est une apologie du terrorisme, c'est un délit d'opinion.
On a l'impression que c'est la première fois que il y a une personnalité politique qui est traitée de cette façon-là. Moi, je suis très frappée de voir que les opposants de la LFI, les journalistes dans une presse assez opposée à LFI, eh bien, volent à la défense de Madame, au secours de Madame Panot. Pourquoi pas ? Mais je les trouve extrêmement magnanimes, sachant que l'extrême gauche, elle, quand ses opposants sont concernés,
oui, elle est
première à les mettre Non, mais d'accord, mais on a l'air de dire, il y a une judiciarisation de la vie politique. Mais vous pensez que quand Marine Le Pen a été convoquée pour les photos, où là, il n'y avait pas d'ambiguïté, je ne pense pas qu'elle devait soutenir les gens de Daesh, et personne ne le pensait. Elle a été convoquée, elle a même, on voulait même lui imposer une expertise psychiatrique. Est-ce que vous ne pensez pas que la France Insoumise et les autres auraient dû se révolter, auraient dû dire comme Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais me battre pour que ça ne se passe pas de cette façon-là. Mais ce n'est pas du tout ainsi que ça s'est passé. Alors c'est vrai que la France Insoumise découvre que c'est extrêmement désagréable, la fin de la liberté d'expression, de voir des gens qui manifestent quand ils
sauf qu'en attendant, aujourd'hui, le résultat, c'est que ça leur permet de se victimiser. Oui, mais là, vous leur permettez de se victimiser, en fait. Donc,
oui, mais vous avez raison.
L'effet attendu. Ce qu'elle risque concrètement, Madame Panot, je ne suis pas sûr qu'elle risque grand-chose in fine, puisque bon, il y aura forcément une défense habile de la part des avocats de la France Insoumise. Ça leur permet de leur donner une séquence de victimisation, et on se dit que oui, c'est pas la justice qui changera les mentalités et ce qui est ancré au fond des gens qui adhèrent à ces thèses-là de toute façon.
Et quand Régis... on voit le tract du CGT, il y avait un tract qui a
été... À Lille, l'affaire de Lille.
L'affaire de Lille.
Ah oui.
Voilà, il a eu du sursis, de toute façon.
Mais exactement. Régis, pour conclure là-dessus, Régis Le Sommier.
Il faut bien lire les deux, c'est pas les mêmes.
Tout le monde s'appelle Régis Le Sommier ce soir, c'est ça qui est extraordinaire.
C'est une multiplication des Régis Le Sommier. Ouais. Non, moi j'ajouterais, beaucoup de choses ont été dites, mais elle va être convoquée, mais elle est convoquée par la police. Et là, il y a quand même quelque chose, évidemment, on dit ils vont se victimiser, mais on leur donne quand même des éléments pour se victimiser. On leur offre un boulevard.
Sur un plateau.
On est dans une séquence électorale, Philippe Guillet vient de le rappeler. La liste de Manon Aubry ils ont de quoi justement revenir
sur cette ligne, elle doit se dire mais qu'il se taise. Voilà ce qu'elle doit se dire.
Donc il y a une sorte de façon dont on regarde les tweets de Mélenchon et ce qu'il a pu déclarer. Il a même déclaré dans le cadre de la convocation de Mathilde Panot qu'il y avait une atteinte aux droits des femmes. Donc on va être, bien sûr, il va utiliser tous les arguments. Il est excellent en débat. Et on leur offre finalement une manière de se remettre en scène.
Enfin, un événement sans précédent dans l'histoire de la démocratie, il se fout du monde.
Ouais, il se fout de nous.
Voilà.
Bon. Le fait de convoquer. Pour apologie du terrorisme, c'est un député,
quand un politique. C'était l'exemple de
De Marine Le Pen.
De Marine Le Pen, oui, c'est vrai.
Alors que, Éric Zemmour est venu au secours de Mélenchon en expliquant.
Que n'aurait peut-être pas fait Jean-Luc Mélenchon.
Vous voulez au secours d'Éric Zemmour
Mais d'ailleurs, Éric Zemmour, dans son tweet, l'avait mentionné, a dit que l'inverse ne serait pas envisageable. Faut-il envoyer les migrants illégaux dans un autre territoire pour sous-traiter les demandes d'asile? C'est le choix qu'ont fait les représentants du peuple britannique hier, et on va commenter cette actualité dans un instant, mais d'abord il est 23h en une minute. L'essentiel de l'actualité vous est résumé par Maureen Vidal.
Nouveau drame dans la Manche. 5 migrants retrouvés morts, dont une petite fille au large de Vimereux dans le Pas-de-Calais. Une tragédie qui porte à au moins 15 le nombre de migrants décédés en 2024 dans des tentatives de traversée. Quelques 112 personnes, notamment des Syriens et des Irakiens, avaient pris place à bord de l'embarcation du jamais vu, a souligné le préfet du Pas-de-Calais. Une plainte à l'encontre de Fabrice Leggeri, ancien président de Frontex, déposée par la Ligue des droits de l'homme et l'association d'aide aux migrants Utopia 56 pour complicité de crimes contre l'humanité et de torture. Les deux ONG l'accusent d'avoir laissé se perpétrer des faits criminels dont il avait, selon elles, connaissance sur la route migratoire la plus meurtrière au monde, la Méditerranée. Fabrice Leggeri est à présent numéro 3 de la liste RN aux européennes. Enfin, Olivier Giroud s'en va rejoindre le Los Angeles FC en fin de contrat à l'AC Milan. L'attaquant de 37 ans s'envolera pour la côte ouest des États-Unis cet été. Il va signer pour 1 an et demi, plus une année en option, selon son entourage. Il retrouvera son compatriote Hugo Lloris, ancien partenaire en équipe de France.
Merci beaucoup Maureen Vidal, rendez-vous dans 30 minutes. Les appels internationaux se multiplient pour exhorter le Royaume-Uni à renoncer à expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda après l'adoption par le Parlement d'une loi qualifiée d'historique par le Premier ministre Rishi Sunak. Après des mois de bataille, le Parlement britannique donc a approuvé la nuit dernière ce projet de loi qui permet l'expulsion de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Le gouvernement espère débuter ces expulsions d'ici d'ici 10 à 12 semaines. Olivier Weber, notre correspondant à Londres.
Rien ne nous arrêtera, c'est le cri de cœur lancé ce matin par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, bien déterminé à faire décoller les premiers vols de migrants vers le Rwanda d'ici le mois de juillet. La loi le lui autorisant a été votée au Parlement la nuit dernière après des heures de débats houleux et des mois de blocage à la Chambre des Lords. Le gouvernement conservateur est convaincu que cette loi aura un effet dissuasif sur les vagues de migrants qui arrivent sur les côtes britanniques. Des vagues de migrants en hausse d'ailleurs cette année, alors que Rishi Sunak avait promis de stopper les bateaux. Le Premier ministre britannique et le gouvernement conservateur sont bien décidés à en découdre avec les organisations internationales qui critiquent vivement cette loi d'expulsion vers le Rwanda, comme le Conseil de l'Europe ce matin, qui demande au gouvernement britannique de ne pas expulser de migrants vers le Rwanda. Mais pour Rishi Sunak, eh bien, c'est devenu une question de survie politique. Quelques mois d'élection, 40% des Britanniques se disent favorables à cette loi et Rishi Sunak, donné perdant dans les sondages, a besoin de cette victoire électorale.
Le projet vise à expulser, on est en direct, chers amis, le projet vise à expulser des migrants arrivés illégalement, d'où qu'ils viennent, vers le Rwanda, qui examinera leur demande d'asile. Quelle que soit l'issue, ils ne pourront pas revenir au Royaume-Uni. Gabriel Cluzel, est-ce que les Britanniques ont trouvé la solution miracle ?
Écoutez, l'avenir le dira, mais déjà, je trouve que c'est très vexant pour le Rwanda, que tout le monde ait l'air de penser que c'est une punition absolue d'aller dans ce
pays. Alors, c'est moyennant finance. Hein,
oui, non, mais très bien, mais je vois les titres de presse, c'est épouvantable, c'est affreux, c'est abominable. Je ne sais pas, on passe notre temps à nous dire que les pays occidentaux sont affreux, racistes, irrespirables. Bah, écoutez, on va voir, on aimerait savoir pourquoi aller au Rwanda est si mal vécu. Il faut trouver des solutions. C'est ce qu'a essayé de faire aussi Giorgia Meloni à sa façon, en signant un accord avec l'Albanie ou en essayant de monter un accord avec l'Albanie. Et évidemment qu'il faut trouver des solutions dissuasives. Je crois qu'aujourd'hui, ce que se disent beaucoup en Europe, c'est est-ce que le Royaume-Uni va y arriver parce qu'il est plus libre, n'étant plus dans l'Europe ? Ou est-ce que pour des pays européens à l'intérieur de la boîte, ce genre de solution va-t-elle être possible ou pas ? Ce qui est certain, c'est qu'ils ont bataillé, énormément bataillé. On a suivi les allers-retours sur cette loi et que, in fine, ils y sont arrivés. On va voir l'effet concret et surtout l'effet dissuasif, évidemment.
Quand plus rien ne fonctionne pour juguler les arrivées massives de migrants, Maître Bouvier, les Britanniques emploient les grands moyens. Et Régis, vous prendrez la suite ?
Oui, et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls à vouloir faire ça. Hein. Les Italiens pensent à envoyer en Albanie, les Allemands réfléchissent aussi. Il faut voir qu'on a là...
La question, c'est la faisabilité l'aspect dissuasif ou pas, comme le rappelle Gabriel.
Tout à fait. Et alors là, ils ont essayé en 2022, ça n'a pas fonctionné parce que leur loi a été invalidée par la Cour suprême et par les juridictions britanniques et par la CEDH qui a rappelé également...
Cour européenne des droits de l'homme.
La CEDH qui n'est pas à confondre avec l'Union européenne, hein, bien évidemment, qui a rappelé dans son article 3 qu'on ne peut pas envoyer des personnes dans un pays qui risquerait d'être, où ils risqueraient d'être soumis à une torture, à des traitements dégradants, etc. Là, cette nouvelle loi explique que le Rwanda est désormais un pays sûr et que donc par conséquent on peut y envoyer ces migrants. Moi personnellement, je trouve que envoyer des personnes dans un pays qui n'est pas le leur, où il n'y a pas forcément de travail, où ils ne parlent pas forcément nécessairement bien anglais, c'est quand même très
difficile. À la base, ils vont dans un pays qui n'est pas le leur, où ils parlent nécessairement pas anglais.
Les envoyer au Rwanda, c'est quand même pas la même chose. Et d'ailleurs, on avait un député rwandais qui l'avait dit en 2022 et qui avait dit on a déjà nos problèmes.
Mais attendez, si ça se passe, c'est parce qu'il y a l'accord du Rwanda.
Parce que le Rwanda est bien content de récupérer des livres aussi.
Oui, mais il n'y a pas quelle est la somme d'ailleurs.
Il y a 75
millions par an.
Non, 75 par migrant, je crois, et une somme globale dont je ne me rappelle plus, mais que
bon, on peut retrouver. Régis Le Sommier. Alors, j'ai Amnesty International et d'autres ONG qui disent que le plan britannique est une infamie qui bafoue les droits de l'homme. Il faut observer ça de très très près en France, parce que ça peut aussi, pourquoi pas, arriver chez nous.
Bien sûr, et puis il y a l'exemple, là, on a évoqué Giorgia Meloni, bien que l'accord avec l'Albanie, à mon sens, n'est pas encore, même s'il a été signé, il n'est pas encore mis en application. Mais il y a un pays qui a énormément d'avance sur nous, c'est l'Australie. L'Australie, depuis l'an 2000, a cette politique « no way ». qui empêche justement un certain nombre de migrants d'arriver sur le sol australien. Cette politique a été, elle a connu plusieurs.
C'est pas la même accessibilité l'Australie et l'Europe.
Non, mais attendez, il s'agit d'empêcher des gens d'arriver par le Pacifique. Mmh. Il y a eu des catastrophes humanitaires terribles, plusieurs centaines de morts à la mer de gens qui tentaient d'arriver en Australie. Donc l'Australie a choisi quoi? Elle a choisi un certain nombre d'îles du Pacifique dans lesquelles il y a des centres de rétention. Alors ces centres de rétention, ils ont plus ou moins, il y a eu des moments où, suivant les différents, ça date des années 2000 là-bas, ça s'appelle la politique No Way. Eh bien, l'Australie dit a fini par durcir encore ses conditions d'accès, et donc quand vous voulez migrer en Australie, illégalement, vous êtes envoyé immédiatement sur l'îlot de Nauru, par exemple,
voilà. C'est que c'est plus difficile d'entrer illégalement en Australie, dont chacun connaît la situation géographique, qu'en Europe, avec des routes migratoires.
Il y a différents migrants, si vous voulez. Mais c'est déjà un exemple de sous-traitement de migrants dans des pays indépendants et différents de l'Australie. Là, on est dans un cadre.
On a de plus en plus de pays qui.
Il ne faut pas oublier une chose sur l'Angleterre, c'est que c'est un accord qui a été négocié pied à pied. Il a été annulé par la Cour suprême britannique.
Ensuite, des mois et des mois
qu'on est revenu. Et sur place, il y aura des juges britanniques. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un examen de la demande d'entrée des gens. Ils sont expulsés au Rwanda, mais ils ne sont pas non plus complètement mis dans un camp.
Je suis pas sûr qu'ils aient tous la volonté de monter dans un avion et d'aller vers le Rwanda. J'ai lu qu'il y avait vous avez même des exercices en ce moment dans les entrepôts. Vous avez des agents britanniques qui s'entraînent dans des entrepôts à mettre des gens dans des avions, des gens réfractaires, etc.
Pour essayer de. Demande aux Turcs
c'est quand même une sacrée histoire.
Alors,
Gabriel, rapidement, Philippe, tu n'as rien dit à Yohan.
Quand on demande aux Turcs de faire garde frontière et d'empêcher des migrants qui n'ont aucune envie de rester en Turquie de venir chez nous, ça procède finalement de la même logique. L'idée est dissuasive. Si effectivement les gens comprennent qu'ils vont aller au Rwanda plutôt que d'aller en Angleterre, ils ne viendront plus en Angleterre. C'est l'idée générale.
Sauf que vous pouvez compter, Philippe Guibert et Maître Bouvier, le rappeler sur la Cour européenne des droits de l'homme qui a d'ores et déjà les yeux focalisés, rivés sur Londres, prêt à dégainer un arsenal juridique pour protéger ces demandeurs d'asile. Rien ne nous arrêtera, a assuré hier soir Rishi Sunak. On va vers ce bras de fer juridique.
Oui, tout droit. Oui, un élément qui m'amuse, parce que ce n'est pas vraiment un sujet d'amusement, mais quand même fait réfléchir, c'est que les Britanniques ont voté en majorité pour le Brexit, pour la sortie de l'Union européenne.
C'est vrai.
Au nom du fait qu'ils allaient mieux réussir à maîtriser l'immigration.
Il n'y a jamais eu autant d'entrées illégales en Angleterre.
Et ils sont obligés d'aller signer un accord avec leur mandat pour essayer de trouver une solution qui est en effet.
C'est l'ironie du sort.
Et donc c'est un peu ironique. Et au passage, je trouve que ça devrait faire méditer un petit peu le débat public français.
Je termine juste, à
considérer que c'est l'Union européenne qui est responsable de tous nos maux. Et que l'immigration, sans l'Union européenne, reprenant le contrôle de nos frontières, j'ai entendu ça plein de fois sur.
C'est l'Union européenne qui veut empêcher les Britanniques de contrôler ces migrants, en tout cas.
Oui, enfin, en tout cas, quand on retrouve le contrôle de ces frontières, on n'a pas pour autant résolu le problème de l'immigration. Et pourtant, la situation de la Grande-Bretagne, et pour des raisons géographiques et le fait que c'est une île, est un peu moins difficile que celle de la France, de l'Italie, de l'Espagne. Donc je souligne ça. Le fait de sortir de l'Union européenne ne résout pas.
En tout cas, on a des Britanniques qui font tout pour prendre leur destin en main. Et de la France, on peut se dire, est-ce qu'on peut faire comme eux ou est-ce qu'il y a une fatalité européenne qui fait
juste un mot pour répondre à Gabriel sur la comparaison avec la Turquie, qui n'est pas entièrement fausse. Mais il y a une énorme différence, c'est que les migrants passent par la Turquie, notamment Syriens, Afghans, etc.
Ils n'ont pas envie d'y rester. Hein.
Alors que quand vous êtes Syrien et que vous vous retrouvez en Rwanda, c'est un tout petit peu différent de sourire de cette situation qui ne l'est pas.
Non, mais pour rebondir
sur
ce que vous venez de dire, Julien, je suis tout à fait. Enfin, votre dernière phrase, c'est-à-dire que l'Angleterre essaye quelque chose. On a quand même une crise migratoire sans précédent. On n'arrête pas de le dire. Mais dès qu'on veut trouver des solutions un peu sans précédent et un peu extraordinaires, ça paraît inconcevable.
Parce qu'on a affaire à des êtres humains, quoi. C'est peut-être ça auquel on ne pense pas.
Attendez,
non, mais voyez,
on va les tuer.
Situation
migratoire exceptionnelle.
Mais quels seront les centres de détention où ils iront? Quel transporteur va les traiter?
Appelle des réponses exceptionnelles. L'Angleterre tente le coup. Je pense que pour nous, c'est très intéressant de voir effectivement si ça va marcher. Et je pense qu'il faut presque se réjouir, si vous voulez, de cette espèce de mouvement de contestation des habituelles ONG, partis politiques et même.
Mais pas seulement, ça va au-delà.
Parce que le côté dissuasif, justement, va jouer.
On verra.
plus.
L'avenir le dira.
En Europe, si vous voulez, des gens vont s'indigner.
Et ça, vous n'en savez rien. Pour l'instant.
Évidemment que si, parce
mais on n'avait pas dissuadé. On avait déjà, nous, évoqué des pays comme la Tunisie et autres qui pourraient devenir potentiellement.
Oui, enfin, moi, j'ai juste noté qu'il y avait 5 malheureux qui étaient morts dans la Manche cette nuit. Ça veut dire que, pour l'instant, l'envie à tout prix et au risque de sa propre vie de rejoindre un autre pays surpasse tout.
Je vous explique qu'avec cette. Ce dispositif dissuasif, les migrants vont peut-être...
Oui, mais c'est vous qui dites qu'il sera dissuasif.
Et donc ils mais qui dit que c'est dissuasif?
Amaury, vous
prêtez, puisqu'il n'a pas été prouvé par les
non,
faits.
Non, mais Julien, on ne peut pas à la fois dire que c'est une punition d'aller au Rwanda et dire que ça ne sera pas dissuasif.
Parce que
s'ils sont contents d'aller au Rwanda...
S'ils vont en Angleterre, ils vont être envoyés au Rwanda, donc ils ne vont pas vouloir aller en Angleterre.
La vraie question, c'est de rendre moins attractive l'Europe. Voilà, de dire, ici, vous n'avez pas d'avenir, ici, vous ne pouvez pas...
Loi Rwanda ou pas, les passages vers l'Angleterre ont augmenté de 24% cette année par rapport à l'année précédente.
Oui, puis le Premier ministre britannique a quand même dit qu'il quittait le Conseil de l'Europe si jamais il était condamné par la CEDH.
C'est vrai. Il est jusque boutiste sur cette affaire.
Mais d'abord,
Johan, allez, dernier mot.
Il faut dire que pour l'instant, c'est extrêmement symbolique parce que le premier objectif, c'est de renvoyer 300 clandestins. Donc on n'est pas sur quelque chose de très massif.
Non.
C'est vraiment quelque chose de symbolique, effectivement, pour tenter de susciter cet effet dissuasif. Hein. Il n'est pas question de renvoyer des dizaines de milliers de clandestins.
C'est fou d'en arriver là, quand même.
Non, mais... C'est fou d'en arriver là. Ensuite, il est vrai qu'on a un problème, quand même, en France et globalement au sein de l'Union européenne avec les demandeurs d'asile. Parce que les demandeurs d'asile qui viennent sur le sol français sont déboutés dans 70% des cas. Donc ce qui signifie que 7 demandeurs d'asile sur 10 devraient retourner dans leur pays d'origine. Or, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien que malgré le fait qu'ils soient déboutés, ils restent sur le sol français. Donc asile ou pas, ils restent ici.
Mais c'est pour ça que c'est fou d'en arriver là, parce que ça veut dire que dans cette fameuse confrontation internationale, les pays d'accueil sont incapables d'exécuter les expulsions, les OQTF, donc on en arrive à ces mesures extrêmes.
C'est bien pour ça que le pacte asile et immigration a été voté, parce qu'il prévoit l'externalisation des demandes
d'asile. Qui est une usine à gaz et qui ne fonctionnera pas.
Il prévoit effectivement des centres de rétention à l'extérieur des frontières européennes. Et il est vrai que ce que fait quelque part la Grande-Bretagne, l'Italie aussi a commencé à devancer l'application du pacte asile et immigration avec l'Albanie. Parce que quel est l'accord qui a été signé avec l'Albanie ? C'est un accord qui prévoit que les migrants secourus en mer seront automatiquement dirigés vers l'Albanie, pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne, donc qui a fait preuve de beaucoup de souplesse. Et les demandes d'asile seront examinées en Albanie.
Écoutez,
et si les demandes d'asile sont acceptées, eh bien ils pourront effectivement rentrer en Italie. Si ça n'est pas le cas, eh bien ils retourneront dans leur pays d'origine.
Pourra-t-on un jour de nouveau contrôler quelque chose sur ces questions ? Rien n'est moins sûr.
140 millions, c'est ça ? Ouais. Pour 300 personnes ?
Oui, c'est énorme.
Oui, enfin, ça va durer
quelques années. C'est quand même un peu étrange.
Bon, Toulouse, tout autre sujet. À Toulouse, un collégien, vous avez certainement entendu parler de cette affaire ces dernières heures. Un collégien d'une quinzaine d'années à peine est en garde à vue. Il a menacé de mort, giflé à 4 reprises son professeur qu'il avait juste repris pour son comportement pendant le cours. Écoutez le recteur de l'Académie de Toulouse qui revient sur les faits.
Un professeur, pendant qu'il faisait son cours, un des élèves, manifestement, avait un comportement irrégulier. Donc le professeur l'a rappelé à l'ordre. Et à un moment donné, l'élève s'est levé, l'a pris par le col de sa chemise, l'a plaqué contre le mur et lui a asséné 4 gifles, plus exactement. Le professeur n'a pas réagi. Ce que m'a expliqué le professeur lui-même, c'est que l'élève, était sorti de la classe par ses propres camarades. Et là, je voudrais vraiment saluer la réaction des 30 autres élèves de la classe qui ont vraiment compris qu'il y avait un geste démesuré grave qui s'est produit. D'abord, ils sont intervenus, ils ont pris leurs camarades, qu'ils ont sorti de la salle. Et à ce moment-là, effectivement, manifestement, l'élève a proféré des menaces en disant des menaces de mort. Je vais te fumer, toi, tu
verras. Ils ont des gypsies.
Alors, violence exponentielle qui nous échappe totalement, Gabriel. En fait, c'est pas normal que des gamins de cet âge aient une telle violence en eux.
Est-ce non, que... ça, c'est sûr que c'est pas normal. Non, mais déjà, ça est presque.
Pardon pour la question.
Pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que si le professeur, c'est un peu comme les policiers, si le professeur avait rétorqué, je vois que c'est le recteur qui dit le professeur n'a pas rétorqué, mais heureusement pour lui, parce que si il avait rendu coup pour coup, c'est lui qui était en prison.
Hein, ce sont les élèves qui ont expulsé jeunes et voilà, imaginez si le prof, c'est vrai, dans un mauvais réflexe.
On a l'air de tresser des couronnes de laurier autour des autres qui ont expulser le collégien, bah, c'est la moindre des choses. J'espère qu'ils ne sont pas venus en plus taper avec ce collégien. Vous voyez, on est quand même dans un monde où rien ne tourneront. Hein. C'est pas la première fois que ça se passe. On a supprimé, je crois que ça fera peut-être des sujets que nous évoquerons dans la soirée, mais on a supprimé la fessée pour les enfants.
Ah, bah on va y venir.
Mais visiblement, la fessée des enfants avec les adultes, ça fonctionne toujours. Non, vous voyez qu'il y a un grave problème de base, c'est-à-dire que on n'éduque pas petit à petit un enfant avec un tuteur en lui donnant des limites à ne pas dépasser, et à la fin on arrive avec des collégiens qui tapent sur leur prof. Alors moi je sais pas, et je vais finir là-dessus, si la séquence, au risque de revenir sur un sujet que vous avez sans doute abordé hier, de Gabriel Attal avec ses fameux collégiens dans l'internat de Nice, où on voit rigoler les ministres avec les collégiens, leur donner leur heure de gloire, parce que j'imagine qu'après ils ont montré toutes les petites vidéos, enfin ils les montreront quand ils reviendront, est une bonne solution. Vous savez que dans l'internat là, alors ils vont aller voir une expo de Tintin, ils vont faire un atelier d'estime de soi, parce que vous pensez
ils vont se lever à 7h, ils vont faire leur lit au carré, ils vont apprendre la Marseillaise, non, ils vont se lever quand le professeur... Non mais, alors on va pas refaire le sujet, parce qu'en effet on l'a fait hier, ce sujet, en effet vous avez raison, la différence c'est que les enfants qui sont dans ces internats sont pas des enfants qui ont tapé sur leur professeur, c'est des gamins qui sont un peu... Non, c'est des gamins qui sont un peu à la dérive, qui sont en décrochage scolaire, qui sont pas des tueurs de profs, a priori.
Hein. Alors déjà, il a pas tué son prof.
Non, mais vous avez compris
la caricature que j'en faisais. On emmène dans les expositions de Tintin. On n'en est pas encore arrivé là.
Mais
justement, je les trouve merveilleuses, donc je comprends pas pourquoi ce serait une punition. Monsieur Estrosi s'est mal exprimé, mais il a dit que c'était 20 primo délinquants.
Non, ce sont des décrocheurs, des élèves.
Il a dit, regardez, sa déclaration.
Il s'est trompé, Christian Estrosi, sont des décrocheurs scolaires. Et en effet, on se dit que ces internats n'ont aucune valeur et aucun bien fondé pour des gamins délinquants, en l'occurrence celui-ci, où je pense à ces agresseurs de Philippe, notamment de 14 et 15 ans à Grande-Synthe, qui n'ont pas leur place dans des internats, mais dans des centres fermés ou dans des hôpitaux psychiatriques. Le recteur, une dernière fois, sur le profil de ce gamin qui a tapé son prof et de la menacer de mort, et puis on continue d'en dire un mot.
Dans un établissement qui est réputé un établissement tranquille, hein. Enfin, on n'a pas eu d'incident jusqu'à maintenant d'une telle gravité, et donc non, il n'y avait rien qui laissait présager ce comportement. En revanche, quand on regarde un peu le dossier de cet élève, effectivement il y a eu depuis cette rentrée un changement de comportement. Il a déjà été convoqué par le chef d'établissement, les parents ont été aussi convoqués par le chef d'établissement. On ne pouvait pas imaginer que cet élève pouvait passer à une telle agressivité, encore moins vis-à-vis d'un professeur. L'élève a été exclu à titre conservatoire, donc tout le monde peut le comprendre. C'est la fermeté, le message que je souhaite faire passer à la fois vis-à-vis de ce type de profil, mais aussi vis-à-vis des parents. Parce que là, il y a une responsabilité également de suivi de la part des parents. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la situation familiale, mais en aucun cas, la situation familiale ne puisse être une justification pour un comportement de la sorte dans nos établissements scolaires. Donc, j'aviserai en fonction de la décision judiciaire. Donc, il y a plusieurs préconisations qui pourraient être faites par le juge. Et ensuite, pour nous, il n'est pas question d'avoir un élève qui a commis un acte comme celui-là, retourner dans un établissement scolaire, même si nous avons obligation de le scolariser, il ne sera pas rescolarisé dans des conditions comme si de rien ne s'est passé.
Mais la vérité, Maître Bouvier, c'est qu'on a une problématique de santé mentale chez certains jeunes pour en arriver à ce type de comportement.
Oui, tout à fait. Alors, pour clore la question de l'internat, moi, je pense qu'il faut développer les centres éducatifs fermés et les EPID, qui sont des établissements d'insertion pour les jeunes à partir de 17 ans et qui sont placés sous le contrôle de l'armée, parce qu'il faut les cadrer, ces jeunes. C'est quand même très, très important. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que on a suffisamment répété que notre droit n'était pas adapté à la situation des jeunes aujourd'hui. Et c'est d'autant plus vrai que le droit, les dirigeants, le législateur doivent prendre en compte aussi que notre nouvelle jeunesse, elle fait face à des images qui sont très, très, très violentes sur Internet. Et c'est d'ailleurs ce que dit très bien le procureur Molins dans son ouvrage et qui explique à quel point c'est très difficile, dès qu'il y a un attentat, par exemple, de devoir essayer d'éviter que les images puissent être diffusées. Parce qu'ensuite, ça induit dans la tête des jeunes cette banalisation de la violence et ça provoque un problème.
De là à fracasser des crânes.
Eh bien, ça les
On a été jeunes, on a joué à des jeux vidéo violents, on a vu des films d'horreur.
Et à adorer les films d'horreur.
Moi, je trouve ça à bon dos, les images et les écrans, dans des cas pareils.
J'adore les films d'horreur.
Non, mais d'accord.
C'est
formidable.
Mais pour autant,
oui.
Effectivement, on a aussi. Il faut quand même considérer que ces jeunes-là, ils doivent être suivis. Il faut qu'on ait des pédopsychiatres. En fait, en réalité, on n'a pas suffisamment. Oui, mais il faut qu'ils soient suivis psychologiquement. Je travaille beaucoup avec des enfants parce que je fais beaucoup d'affaires familiales. Mmh. Et je vois beaucoup d'enfants qui ont des problèmes, notamment parce qu'ils voient des choses sur les réseaux, parce qu'ils sont perturbés, parce qu'il y a les copains, parce que des fois il y a des problèmes dans les familles, pour multiples raisons. Ou des fois des raisons qui sont globales, il y a une raison systémique. Il faut impérativement qu'on ait un suivi pédopsychiatrique pour ses enfants.
Sachant que la psychiatrie est le parent pauvre de la santé publique française, comme chacun le sait, comme on l'a beaucoup répété ces derniers mois, ces dernières années. Et cette question, malheureusement, Maury, on va avancer, vous me répondrez à celle-ci. Faut-il mettre en place des couvre-feux pour les mineurs ou dans les endroits où il y a des problèmes de délinquance? C'est une question qui revient ces dernières heures. Vous savez que la mesure est en vigueur à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Elle vient d'être remise en place à Béziers par le maire de la ville, Robert Ménard. Est-ce que c'est la seule solution pour canaliser les jeunes en déshérence? Écoutez d'abord le maire de Béziers.
Parce que c'est une évidence. Parce que c'est une mesure de bon sens. Je vous rappelle que je l'avais fait il y a 10 ans. Parce que des gosses, enfin je sais pas, vous avez des enfants, est-ce que vous croyez qu'un minot qui a de 9 ans, 10 ans ou 11 ans, il a à être tout seul en pleine nuit dans la ville? Bien sûr que non. D'abord, quand ils sont en bande, ils sont souvent des dangers. Et quand ils sont tout seuls, ils sont en danger. Et donc c'est pour ça que je l'avais fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait été poursuivi, vous en souvenez peut-être, par la Ligue des droits de l'homme, comme si elle avait rien d'autre à foutre, la Ligue des droits de l'homme, que de s'occuper de ça. Je lui en donnerai d'autres sujets. Et ensuite, ça avait été du coup cassé par le Conseil d'État. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus exactement dans la même position. D'abord, les mentalités ont évolué. Regardez, au même moment où je fais ça, le ministre de l'Intérieur fait au fond la même chose. En Guadeloupe, c'est difficile de me dire, en Guadeloupe, le ministre a raison de le faire et vous, vous n'avez pas raison de le faire.
Et les Français, faut-il mettre en place, afin d'éloigner les jeunes de la délinquance, des couvre-feux pour les mineurs à partir de 23h en France, puisque c'est cette heure qui a été choisie par le maire de Béziers. Je ne sais pas si on peut l'afficher. En tout cas, sachez-le, 67% des Français répondent oui. En attendant de voir l'infographie, on va demander l'avis des Français. Justement, eh bien, la voici, le camembert, c'est découvert. Maintenant, on écoute les Français.
Ça inciterait déjà les parents à veiller sûr qu'ils sont à l'heure à leur maison, chez eux, quoi. Voilà. Ça serait mieux.
Malheureusement, on est dans un monde où, quand tu dis quelque chose, les gens ne font pas. Donc, tu es obligé de mettre des couvre-feux. Et moi, je suis pour le couvre-feu des mineurs si jamais les gens ne veulent pas, ils continuent à laisser traîner leurs enfants. Avec ce qui s'est passé, tu as encore des jeunes de 13 ans, 14 ans qui traînent encore les rues après les faits. Tes parents, t'as un minimum de jugeote.
Comme on dit, il faut faire quelque chose, quoi. Après, est-ce que ça va faire quelque chose de plus? Ça, on n'en sait rien. Mais au moins, faire quelque chose. Déjà, c'est vrai que les mineurs n'ont rien à faire à 23 heures le soir dehors.
Un jeune de 13 ans n'a rien à faire dehors à 2 heures du matin.
Est-ce qu'il faut mettre en place des couvre-feux pour les mineurs partout où il y a des problèmes de délinquance?
C'est triste, hein. Mais je crains que dans certains cas, dans certains quartiers, on ait guère le choix.
On parlait de dissuasion tout à l'heure, ça dissuade.
C'est triste qu'en 2024, on en soit à évoquer des couvre-feux et à mettre en œuvre éventuellement des couvre-feux. Honnêtement, moi, ça m'attriste, pour pas dire que ça me dérange un peu. Mais la réalité, dans certains quartiers, vous vous rendez compte, on parle de gamins de 13 ans. Hein. On ne parle pas de gamins de 16 ans, de 17 ans.
De 13 ans et moins.
De moins de 13 ans, ouais. Non accompagnés, après 23 heures. On ne parle pas après 20 heures.
Donc il n'y en a pas des masses, hein, des gamins de 13 ans non accompagnés après 23 heures dans les rues en France.
Ben, je sais pas, je pense si. Que dans certains quartiers, là encore une fois...
On avait un guetteur hier de 14 ans.
Ça envoie sur le débat sur les parents, hein, parce que évidemment qu'avec des parents qui jouent leur rôle ou qui peuvent le jouer, normalement un gamin de 13 ans, il n'est pas dehors après 23 heures.
Alors la question c'est, est-ce que c'est dissuasif? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est dissuasif? Est-ce que c'est efficace? Et surtout, en revanche, on a une réponse, parce qu'on a entendu les forces de l'ordre réagir, notamment aujourd'hui sur notre antenne, c'est énergivore. Hein, parce que vous avez forcément un équipage de police qui va être réquisitionné, le gamin, il va être ramené au poste, il va y avoir une amende qui sera payée une fois sur 10. Vous bloquez l'équipage pour le ramener également chez eux. Bon... Oui, il y a peut-être d'autres choses à faire.
Et puis, il faut quand même constater qu'ils font face à une réalité qui est... On a beaucoup parlé ces mois derniers de l'explosion du trafic de drogue en France avec les opérations Placenet. Il faut constater que les mineurs font partie intégrante de l'édifice bâti par les dealers. Vous avez évoqué ces jeunes choufs de 14 ans. Ils sont très utiles parce que les dealers savent que juridiquement il y a une sorte de tolérance qu'ils vont ressortir, donc ils sont un élément essentiel. Donc la vraie question, c'est oui, les faire en sorte qu'ils ne soient plus dans la rue pour dealer, ça c'est quelque chose d'essentiel. Alors après oui, ça va demander des moyens supplémentaires, ça va demander une police beaucoup de travail supplémentaire pour la police, mais je pense quand même que ça vaut le coup d'être appliqué et puis de voir aussi si ça fonctionne.
Absolument.
On va continuer la discussion. On va entendre la maire de Romans-sur-Isère qui était chez Laurence Ferrari tout à l'heure, Marie-Hélène Thoraval, dont on écoute beaucoup les paroles parce qu'elles sont souvent empreintes de bon sens et surtout de réalité. Maureen Vidal, d'abord, l'essentiel de l'actualité en une petite minute et on continue la discussion.
Kenji Girac, toujours hospitalisé après sa blessure par balle au thorax. L'enquête se poursuit pour tenter de comprendre les circonstances de ce drame. Le chanteur évoque un acte accidentel, mais toutes les hypothèses sont actuellement étudiées. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire. D'autres versions ont été données par des témoins et proches du chanteur. Il s'agissait, selon eux, d'une soirée alcoolisée avec de nombreuses tensions. L'expulsion de l'imam de Toulouse validée par la justice. Mohamed Tataïat a été renvoyé en Algérie vendredi dernier. Une demande faite par Gérald Darmanin. Cet imam de nationalité algérienne a été condamné pour antisémitisme en 2022. Le religieux s'était vu refuser deux fois la nationalité française pour son absence d'efforts d'intégration, selon le ministère de l'Intérieur. Enfin, plus de 130 arrestations à New York après des manifestations étudiantes pour Gaza. Alors que la situation s'enflamme sur les campus américains ces derniers jours, les étudiants arrêtés la nuit dernière ont été relâchés depuis. Parmi elles figurent étudiants et enseignants à la New York University. Une lettre de l'université avait été publiée par la police appelant les agents à évacuer les manifestants.
Un couvre-feu pour les mineurs. Merci beaucoup, chère Maureen. Très bonne soirée à vous. Un couvre-feu pour les mineurs, c'est une solution miracle pour vaincre les problèmes de délinquance. Écoutez ce qu'en dit la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval.
Pour une fois, il y a une proposition qui est faite. Donc moi, en tant qu'élu, je dis, bon, peut-être, sauf que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la problématique de la délinquance des mineurs est uniquement sertie par la mise en place d'un couvre-feu, je peux vous assurer que le résultat ne va pas donner grand-chose. Quand vous prenez ce type d'arrêté, ensuite, il faut avoir la capacité de le faire appliquer. Pour le faire appliquer, il faut qu'il y ait un contrôle aussi de la part de la police pour savoir s'ils sont effectivement mineurs. Ben, figurez-vous que moi, en tant que maire, avec ma police municipale, je ne peux pas procéder à ces contrôles.
Pourquoi ?
Seule la police nationale peut le faire. Donc, si on fait ou si on propose de nouvelles mesures, mais qu'en face, on ne fait pas évoluer les prérogatives des forces de police qui sont sur le territoire, ça va être extrêmement compliqué.
Symbolique, Gabriel, du couvre-feu. Pourquoi pas ? Mais dans les faits, Est-ce que ça peut changer quelque chose?
Déjà, le fait même
qu'il y a les mineurs isolés également.
Faille mettre un couvre-feu pour des mineurs prouve qu'on a un grave problème d'éducation des parents. C'est plus des
c'est
enfants.
C'est ça le fond
là,
du problème, en fait.
Dans notre pays.
C'est un moyen, mais c'est pas une fin.
Aucun parent censé n'a envie de laisser son enfant de 13 ans après 23 heures dans la rue, ne serait-ce que pour sa protection à lui, simplement pour qu'il mette pas en danger les autres. Donc, tout cela est absurde. On ne devrait pas avoir à légiférer sur ces sujets parce qu'ils sont, ils relève simplement du bon sens. Et en réalité, les jeunes qui sont concernés, vous en parliez, Régis Le Sommier, dans les trafics de drogue, etc., je ne suis pas sûre que ça change grand-chose in fine pour eux, parce que ce qu'ils font est déjà illicite. Donc tout cela me paraît rassurer les braves gens qui ont besoin qu'on leur dise qu'on va faire des choses, mais je ne suis pas sûre que les effets soient majeurs. Bon, voilà, très simplement.
Non, mais c'est ça.
En tout cas, ça soigne un symptôme, ça ne soigne pas le mal qui est au fond, qui est très, très, très clairement un problème de famille et de famille déliquescente.
Le fond du problème, c'est, vous l'évoquez, la responsabilité des parents et les sanctions pour freiner cette délinquance des mineurs dont on parle de plus en plus. On nous bassine toute la journée, on nous fait entendre que c'est le retour de l'autorité. On en a eu encore un exemple hier avec cet internat visité par le Premier ministre, la responsabilité des parents qui est mise en avant, mais aussi on est dans une époque où l'excès d'autorité est moralement réprimé, également à l'image du droit de correction. Il y a cette affaire qui fait écho, qui est beaucoup commentée ces derniers jours. Vous savez qu'un homme poursuivi pour des violences sur son ex-femme et ses enfants a été relaxé il y a 5 jours, le 18 avril, par la cour d'appel de Metz, qui évoque dans son arrêt l'existence d'un droit de correction qui est reconnu aux parents. Donc cette question, certaines violences sur les enfants peuvent-elles être considérées comme légitimes? Et cette fessée bannie en France, il y a quelques années désormais, devrait-elle faire son retour? Je voudrais juste que vous voyez le tweet de la secrétaire d'État, Sarah El-Haïry, qui a commenté cette décision de justice. C'est vrai qu'il a choqué beaucoup de gens, parce qu'en l'occurrence, monsieur ne faisait pas que donner des fessées à ses enfants, mais était particulièrement violent physiquement et psychologiquement. Il ne m'appartient pas de commenter des décisions de justice, mais il est, je pense, clair que le sens de l'histoire est celui de l'instauration d'une éducation sans violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Cette question qui va au-delà, évidemment, de ce cas qui était semble-t-il, je le répète, extrême. Est-ce qu'il faut revenir sur cette loi de 2019 qui rappelle que les violences éducatives, ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas envisager l'autorité parentale avec des violences psychologiques ou physiques? Maître Bouvier.
Alors, moi, dans le cas de mon activité...
En gros, faut-il remettre la fessée voilà.
C'est pas la question de la fessée, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut être ferme avec les enfants, mais il ne faut pas que ça se transforme en violence intrafamiliale. Et dans le cas de mon activité, je vois tous les jours, parce que je défends énormément de femmes qui subissent des violences conjugales, et des enfants qui sont aussi, qui subissent également ces violences, soit directement, soit indirectement. On rappellera également que les violences, elles peuvent être psychologiques, comme elles peuvent être physiques aussi. J'ai vu des parents qui insultent leurs enfants, et après on se demande ensuite pourquoi ils sont violents. Parce que forcément, ils voient ça à la maison. Ils voient leur mère se faire battre par leur père. Je vois ça tout le temps. Ça fait pas vraiment partie de mon quotidien. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'on a commencé à s'intéresser véritablement aux violences intrafamiliales que dans les années 70. Parce qu'avant, on estimait qu'il y avait un secret du couple, un secret de la famille, une espèce de tabou, et qu'on devait pas interférer là-dedans. On peut aussi rappeler que c'est qu'en 1938 qu'on a supprimé l'incapacité civile de la femme et qu'il a disparu le devoir d'obéissance à son mari.
Très mauvaise blague.
Je me doutais que la blague allait être mauvaise.
Très mauvaise.
Et c'est quand même très important. Et moi, je m'insurge contre cette décision parce que je ne comprends pas que cette décision ait été prise parce que je mets un point d'honneur et je défends des dizaines de femmes par an et je défends également des enfants dans ces cadres-là.
Là, on comprend. Non, mais Maître Bouvier, on comprend que vous évoquez des cas extrêmes. Moi, la question que je pose, elle va au-delà de ce cas extrême. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut encore imaginer aujourd'hui qu'une fessée de temps en temps, ça remettrait les idées en place à certains enfants?
Mais tout dépend.
Voilà.
Tout,
c'est vraiment la simplicité de.
Je suis anti-woke, mais je ne suis pas pour la fessée non plus. C'est-à-dire que je ne suis pas pour les châtiments corporels de manière générale. Simplement, je trouve que c'est apprendre à l'enfant quelque chose qui n'est pas juste. Et c'est pas comme ça qu'on va l'encourager. Et je trouve également que l'éducation d'un enfant, ça se fait aussi autrement et autrement, sans lui dire qu'il a le droit de tout faire. Mais on parlait justement de ce couvre-feu des mineurs. couvre-feu des mineurs de 13 ans, ça suffit pas, évidemment. Bah et Gabriel l'a dit. Parce que pourquoi mineurs de 13 ans? Parce qu'en fait, avant ça, ils sont pas responsables pénalement. En réalité, il aurait fallu l'étendre aux mineurs de 14 et 15 ans. Voire davantage. Mais en réalité, on ne fait pas ce qu'il faut. Mais après, réinstaurer la fessée, non, moi, je ne suis pas pour. Et j'estime qu'à un moment donné, il faut faire attention parce qu'on n'imagine pas, et je terminerai là-dessus, mais on n'imagine pas les drames qui se nouent dans les familles avec des parents qui disent « Oh non, mais je lui ai juste mis une petite claque. » Alors qu'en réalité, l'enfant, eh ben, derrière, il est traumatisé parce que son père aussi...
Il y a des générations de gens et peut-être autour de cette table qui ont connu la claque, la fessée.
Mais pour autant, ça peut vraiment dégénérer. Et je vous l'assure que je le vois.
Gabriel Cluzel.
Il ne faut pas confondre.
Moi, je ne veux surtout pas que dans ce débat, on confonde notamment cette affaire de Metz et des violences extrêmes qui sont durablement préjudiciables et une fessée de temps en temps à des gamins.
Il y a quelque chose d'étrange. C'est-à-dire que des violences psychologiques, ça peut ne pas être considéré comme des violences extrêmes, mais des parents qui vont, un père ou une mère qui va insulter son enfant tous les jours.
Ce n'est pas de ça dont je parle.
Oui, je sais, mais ça vient de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'éduquer les enfants.
Gabriel.
Non, mais justement, le mot de violence éducative est très compliqué à analyser parce qu'il n'est pas subjectif, il n'est pas objectif, il est subjectif. Moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que ne mettre aucune limite à son enfant, c'est une violence éducative.
Ah, je n'ai pas dit qu'il fallait mettre aucune limite.
Non, mais je ne dis pas que vous l'avez dit, je dis que de façon générale, les psychologues aujourd'hui le disent très clairement. Hein, je vous renvoie aux travaux de Caroline Goldman, de Didier Pleu. Oui, ils disent toute cette déification de l'éducation bienveillante, d'ailleurs le mot est mal choisi parce qu'évidemment personne n'a envie de donner une éducation malveillante à ses enfants, mais le fait de les laisser sans limite, ça en fait des tyrans et des colosses au pied d'argile. Ont besoin de limites, parce que je ne veux pas confondre,
on n'est pas, c'est, moi je suis anti,
non mais je pense qu'on ne pense, on ne parle pas de la même chose.
Écoutez-vous mesdames s'il vous plaît,
je dis simplement qu'aujourd'hui on a tellement parlé de violence éducative, et vous avez raison, ça peut être des violences physiques, ça peut être des violences psychologiques, qu'on a complètement tétanisé les parents et qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les enfants qui exerceraient des violences à l'endroit de leurs parents et de leurs professeurs. Un enfant, il a besoin d'être dirigé. Le mot correction, c'est pas... Là, on le prend comme une correction physique, c'est pas un gros mot, correction. On corrige des dictées, on corrige des enfants, c'est normal, corriger, c'est diriger avec.
Sur les doigts avec des règles non plus.
Non, mais il faut arrêter de diaboliser des mots. Les parents sont là pour diriger leurs enfants, ils doivent leur dire là c'est droit. Bien, là c'est mal, et je ne comprends pas qu'aujourd'hui les parents soient paralysés dans ce domaine.
Il y a quand même, enfin moi ce qui m'étonne c'est cette décision du
comment. Faut-il revenir sur la loi de 2019?
Non,
j'ai pris ce cas comme point de départ, mais nous en sommes sortis. La question que je pose, elle est en dehors de cette affaire de Metz qui peut choquer. Faut-il juste imaginer un retour de la fessée dans les familles pour corriger les enfants une fois de temps en temps? Ou est-ce que tout cela appartient à un autre temps et que ce n'est plus une façon d'éduquer les enfants?
Mais il y a quand même un droit de correction qui existe puisqu'il a été invoqué par cette cour.
Il n'est pas dans le code pénal.
Et donc, s'il est invoqué...
C'est un droit moral.
La vraie question, c'est même si c'est un droit moral, il est invoqué dans le cadre d'une procédure où apparemment le mari est quelqu'un de violent. Donc il y a quand même quelque chose d'assez anormal. Pourquoi on en vient à invoquer ce droit de correction dans le cadre de cet homme, dans cette affaire?
Est-ce qu'il a un droit de correction sur sa femme aussi?
C'est quand même très étonnant.
Alors ça, c'est la porte ouverte et la boîte de Pandore qui pourrait être ouverte. En effet, vous avez raison de le mentionner.
Mais c'est gravissime.
Un maximum de cadrer ce débat autour vraiment de la fessée que beaucoup d'entre nous ont pu prendre quand on a fait une bêtise étant petit,
oui, mais
et qui nous recadrait un petit peu. Et ce sont des comportements qui sont désormais illégaux, qui ont disparu. Et la question qu'on se pose, c'est dans ces cadres de couvre-feu, d'autorité voulue par le gouvernement, et bien est-ce qu'un retour aux fondamentaux de ces châtiments corporels qui n'ont pas traumatisé les générations de Français doit être de retour
Les châtiments corporels, la vraie question, c'est l'exercice de l'autorité. Et aujourd'hui, on ne peut pas utiliser ces châtiments corporels, on ne peut pas utiliser le martinet, la fessée, c'est fini, mais il faut quand même, ça n'empêche qu'il faut quand même borner, il faut quand même encadrer la jeunesse et exercer une autorité en tant que parent.
Un ou deux mots encore, Philippe Guibert qui n'a rien dit, je crois qu'Amaury voulait apporter un commentaire aussi. Fessée ou pas fessée?
Je me souviens d'en avoir reçu quelques-unes.
Oui, moi aussi.
Et je me souviens qu'avec mes propres enfants, j'ai largement restreint l'usage de cette façon d'éduquer. Ça a dû m'arriver une fois. Et donc je me dis que tout ça n'a rien à voir avec des châtiments corporels. Dans mon esprit, un châtiment corporel, c'est tout à fait autre chose que ce que j'ai pu subir. Voilà, mais après, je ne suis pas sûr de pouvoir...
Mais la question, c'est est-ce que vous avez le sentiment que les fessées que vous avez reçues ont contribué à l'éducation et à l'homme que vous êtes aujourd'hui?
Entre la bonne et la mauvaise fessée.
Pardon, c'est un débat qui dérive. Et on ne devrait pas, parce que c'est sérieux, Gabriel.
Jean-Jacques Rousseau, dans Les Confessions...
Non, mais ça vous fait rire, mais pas...
Non, dans Jean-Jacques Rousseau, dans Les Confessions, raconte qu'il a découvert le plaisir avec les fessées.
Oui, mais alors là, vous sortez complètement du débat, là. Gabriel,
vous l'avez recadré.
Ouais, regardez-moi ça, Gabriel, parce que là, c'est n'importe quoi. Fessé ou pas fessé?
Mais il faut voir les résultats. On se glorifie depuis des années d'avoir supprimé les châtiments corporels, d'éduquer les enfants dans la bienveillance, de faire tout un tas de choses merveilleuses par rapport à nos enfants. Non, puis c'est une façon de dire que ceux qui étaient avant nous faisaient ça très mal et c'était des rustres qui tapaient sur leurs enfants. Nous sommes merveilleux, tellement merveilleux qu'aujourd'hui on nous explique que les enfants ont des troubles psychologiques, qu'il faut trouver des psychologues, des psychiatres, que ça va pas, qu'ils sont extrêmement violents, que les mineurs... C'est insupportable. Bon, alors, un arbre se juge à ses fruits. Visiblement, ce qu'on a fait, c'est un peu n'importe quoi.
C'est vrai que les fruits...
Alors, moi, je vais vous donner mon exemple. Hein. Je suis fille unique. Je n'ai pas de vice à part que je consomme trop d'aspartame dans mon café. Je n'ai jamais reçu de fessée, je n'ai jamais reçu de claque. Ça n'empêche pas que j'ai toujours été première de ma classe, que j'ai toujours eu une éducation qui a été très cadrée, avec des parents qui étaient sévères quand il le fallait.
Ça, c'est individuel.
Oui, mais ça montre que c'est possible. On n'est pas obligé de donner une claque à ses enfants ou une fessée à ses enfants pour qu'ils puissent ne pas être détruits.
Non, mais moi, je trouve qu'il faut éviter au maximum. Je suis gêné avec le fait qu'on aille s'immiscer si loin. Et moi, je suis père aussi et je trouve que... La fessée, ça peut être le moyen de montrer la limite extrême à ne pas dépasser. Et je trouve ça gênant en tant que père si un jour il m'arrivait, de mettre une fessée à ma fille, que derrière il puisse y avoir des poursuites judiciaires si c'est la seule violence. Mais
aujourd'hui, ce serait le cas, puisque la loi est appliquée désormais.
Ça, je trouve ça très gênant. J'ai un peu l'impression quand même qu'on s'immisce dans la sphère privée de l'éducation, alors que le problème aujourd'hui, c'est plutôt l'éducation des jeunes.
Aujourd'hui, c'est considéré comme une violence intrafamiliale.
On pose plutôt des limites aux parents plutôt qu'aux enfants, alors que le problème, c'est les enfants. Aujourd'hui,
il y a Kyoane qu'on n'a pas entendu là-dessus.
Il faudrait nuancer en réalité.
Évidemment.
Allez.
Ça ne nuance pas.
Bon, écoutez, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Personne n'a demandé un retour sur cette loi de 2019 que je sache pour le moment. Si chez les politiques. Moi, comment? Pour les adultes. Je savais que ça viendrait. Vous êtes insupportable, Régis. Je ne veux plus vous voir sur ce plateau, c'est terminé. Bon, tiens, on va terminer, puisqu'il nous reste quoi, 2 minutes 30 ensemble. On va terminer avec une image, j'allais dire anecdotique, mais l'est-elle véritablement? Elles ont dîné dans le même restaurant hier soir. Alors, a priori, les informations très renseignées nous disent qu'elles n'ont pas dîné ensemble, mais le hasard les a réunies. Je parle de Mme Arnault, mais je parle surtout de Mme Nakamura et de Mme Macron, qui, à l'initiative d'Aya Nakamura, ont fait ce petit Snapchat, puisque c'est de ça qu'il s'agit, un Snapchat avec des petits filtres, d'ailleurs, des filtres, voilà, petit, gros, j'en sais rien. C'est Aya Nakamura qui a publié ça sur Snapchat. Yoann Uzaï, c'est une simple vidéo qui ne doit pas attirer notre attention, ou c'est une façon, peut-être, puisque on peut imaginer que Brigitte Macron a donné son autorisation à Aya Nakamura pour la mettre sur un média public. Je pense qu'elle a quand même demandé l'autorisation de la femme du chef de l'État. Il y a un message subliminal qui dit « L'Élysée adoube Aya Nakamura et nous sommes en route vers Paris 2024 ».
C'était déjà le cas. Elle a été adoubée par Emmanuel Macron pour chanter à la cérémonie d'ouverture ou de clôture. On ne sait pas encore. Elle a subi depuis des polémiques qu'elle n'a pas commentées. Elle a toujours refusé de réagir à ces polémiques. Là, le fait que Brigitte Macron accepte d'être dans une vidéo où, ma foi, elles ont l'air de plutôt bien s'entendre et de rire ensemble. C'est une manière de montrer qu'elle la soutient face aux commentaires jugés ou qualifiés de haineux et qu'elle a l'appui de l'Élysée et qu'elle conserve toujours le soutien de l'Élysée pour chanter lors des Jeux Olympiques de Paris.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette vidéo, pour vous, Maître Bouvier?
En fait, elle montre...
C'est dans un grand restaurant parisien très chic. Hein.
Oui, mais ça montre la continuité. Le couple Macron s'est toujours affiché avec des people. Hein. Ils ont invité Rihanna à l'Élysée.
Mais là, il y a une symbolique qui ne vous a pas échappé hein, autour de la question de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Bah, tout à fait, puisque c'est dans le contexte. Hein. Mais bon, il y a aussi ce côté people qu'il ne faut pas, je pense, écarter, parce que les Macron se sont toujours, ont toujours donné un côté people à leur contact.
Gabriel,
C'est visiblement un pied de nez à ceux, vous l'avez dit, hein, qui n'étaient pas d'accord avec la candidature d'Aya Nakamura pour les Jeux Olympiques.
C'est presque un bras d'honneur, j'irais même jusqu'à dire qu'elle. C'est très bien pour elle.
Je suis sûre que c'est cette façon de faire, notamment de la part de Madame Macron, qui veut toujours casser les codes. Vous savez, on est dans une société où il faut casser les codes. Ben, moi, je crois que notre société a besoin qu'on ait des codes, au contraire, de cette façon de s'afficher ainsi pour. Ça n'aide pas, à mon avis, Emmanuel Macron, pour tout vous dire, je pense.
Juste une remarque, elle a quand même.
Dernière remarque de la soirée.
Elle a quand même. Oh, de la soirée.
Ouais, c'est fini derrière.
Nakamura a quand même été beaucoup attaquée.
C'est vrai.
Mais je peux quand même préciser une dernière chose.
Ouais, pardon, parce que je.
Alors laisse Philippe finir et Gabriel, vous aurez le mot de la fin. Très vite, s'il vous plaît.
Évidemment que c'est un clin d'œil et une nique, mais certaines attaques, un certain nombre d'attaques contre cette chanteuse n'étaient pas acceptables.
Je suis d'accord.
Oui, non, mais enfin, je rappelle quand même qu'elle a été condamnée pour violence conjugale. Son mari aussi, mais ils ont été tous les deux condamnés. Alors, ça serait n'importe qui d'autre.
Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas pour ces raisons-là que beaucoup ont fustigé cette chanteuse.
Entre autres, ah bon ? Si, entre autres, parce que je pense que.
Un peu de mauvaise foi.
Oui, c'est comme pour porter la flamme, il faut être exemplaire. Entre autres, oui, en effet.
Il ne faut pas avoir reçu de fessée. Votre exemple.
Pas avoir mis de fessée.
Pas avoir mis de fessée aussi. Bon, ben voilà, j'ai raté mon effet là, mais bon, ça arrive.
Image de fin de météo, tout ça, c'est terminé.
Mais alors, si, mais le problème, c'est qu'on doit rendre l'antenne à une heure très très précise désormais et que vous êtes tellement bavard que j'ai plus le temps de faire des images. C'était un peu l'image de fin, ça, c'est un petit peu l'image de fin. Vous nous regarderez demain, Gabriel ? Si vous voulez, pour vous, je fais l'image de fin demain.
C'est gentil.
Bon, mais si vous me regardez, vous m'enverrez un petit message pendant l'image de fin pour me prouver que vous me regardez.
Ça marche.
D'accord, l'accord est passé entre nous. Merci à Martin Mazur qui nous préparera donc une belle image de fin pour demain notamment. Céline Génaud et Coralie Deleplace ont aidé à la préparation de cette émission. Merci à tous les six d'y avoir participé. Merci aux téléspectateurs de nous suivre. L'édition de la nuit avec Simon Guilin. Mercredi, demain soir, Soir Info reviendra bien sûr. À demain, bonne nuit.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.